Nous sommes le lundi 5 décembre et vous écoutez le 17e épisode de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société. Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. LudicBazar.com, c'est le choix, les prix, la qualité et plus de 14 000 références en stock. Du discount, du neuf et de l'occasion. Salut les joueurs, salut les joueuses et salut Jérémy.
Salut Olivier.
Tu vas bien ?
Oui, et toi ?
Ben ça va. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails en ce moment.
Et oui, c'est ça le succès.
Et oui, tous les gens qui nous répondent, qui essayent de gagner un Steam Torpedo, c'est bien. On va commencer comme ça, on va vous commencer par vous rappeler le concours. On va vous faire, on est en train, enfin, comment on dit ?
On vous en fait, cours.
Ouais, ouais. On vous fait gagner dans une boîte.
Dans le prochain numéro, on fera le tirage au sort en live.
Ouais, vous avez encore une semaine pour gagner une boîte. Non, parce que le temps de... Il y a un temps de latence, en fait. On met en ligne, et les semaines d'après, on enregistre. On enregistre, dans une semaine, on met en ligne, et la semaine d'après, on réenregistre.
Ah, pour quand ils vont écouter, mais quand on parle, c'est dans deux semaines.
C'est ça. Mais vous avez encore une semaine pour essayer de gagner un Steam Torpedo. C'est très simple, vous répondez à 5 questions. Il suffit de vous référer aux règles et de vous intéresser un petit peu au jeu. Et ensuite, vous nous laissez votre nom, votre prénom, votre adresse pour qu'on puisse vous envoyer votre cadeau quand on vous tirera au sort le 19 décembre lors de l'émission. Et puis, je voulais remercier Monsieur Saucisse, Bart CB, Yannick, Philippe, Pien, Nicolas, R, Fouzili, Bruno, Dédé, Jocelyn, Frédéric, Véronique, Marilyn ou Xavier, Grégory et Julien pour leurs petits mots. Parce qu'ils nous ont laissé un petit mot avec leur participation et ça, c'est super sympa.
Voilà, merci. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui nous ont laissé le petit mot, n'hésitez pas à aller les mettre dans iTunes.
Ah oui, c'est ça.
Ça sera encore mieux que nous. On apprécie beaucoup pour nous, mais alors ce qu'on aime encore mieux, c'est que vous allez mettre votre commentaire dans iTunes.
Ouais, c'est
sympa.
Enfin,
si vous nous écoutez avec un iPhone, un iPod, effectivement.
Ouais, sinon, vous prenez l'iTunes de votre grand-mère ou de votre voisin ou de votre frère. Enfin, il y a plein de solutions différentes. On peut peut-être aussi parler de notre dossier qui est en ligne ce soir. Donc, on est le 5 décembre. C'est le dossier sur Board Game Arena qu'on a fait avec Grégory.
La semaine dernière.
Dossier fort intéressant où moi-même, j'ai appris plein de choses, notamment qu'on pouvait utiliser deux écrans pour jouer à Board Game Arena.
Voire même trois, parce qu'a priori, ils se refusent rien chez les BGA.
Ouais. Ouais, enfin bon, après, c'est le joueur qui se refuse un petit peu d'avoir trois écrans. Quoi.
Ouais, après le PC déjà pour mettre sur trois écrans, mais bref.
Mais ça permet d'avoir. C'est un des reproches qu'on avait fait quand on avait parlé de Board Game Arena, notamment de 3, c'est que l'écran n'était pas suffisamment grand qu'il fallait slider d'un côté sur l'autre. Et ben en fait, non. Vous avez un portable et puis un écran.
Contrairement justement aux iPads où là on ne peut pas. On a qu'un écran.
Ouais, c'est trop petit. Voilà. Sinon, autre chose sur notre site, quand vous allez sur le podcast.proxy-jeux.fr, vous avez en haut à gauche un sondage sur la longueur du podcast. Est-ce que ça vous plaît, si c'est un petit peu plus long, un petit peu plus court ? Est-ce que la taille, ça compte ?
C'est-à-dire que celui de la dernière fois, il a quand même duré 2 heures et là, on s'est posé des questions. On a dit, on commence à déraper, franchement. À la base, on voulait quand même des formats de 45 minutes.
À la base, ouais.
On tournerait plutôt à 1h15, 1h30. Et la dernière fois, en arrivant à 2 heures, on s'est dit, est-ce qu'on va pas un peu trop loin ?
Alors, c'est un petit peu. C'était pas la norme.
Ouais, mais à la fin, on a parlé un peu beaucoup de jeux, mais quand même.
Et puis, il y avait l'annonce du concours, il y avait beaucoup de choses. Alors, juste un petit mot sur la réponse moins de 74 minutes. C'est un clin d'œil. C'est aussi un petit peu. Enfin, toi, tu dis que 3 quarts d'heure, moi, j'irais plutôt 1h15. C'est un petit peu notre moyenne et a priori ben c'est plutôt vers ça qu'on tend parce qu'il y en a qui aiment beaucoup quand plus c'est long plus c'est bon et puis il y en a qui aiment quand c'est moins d'une heure donc enfin trois quarts d'heure c'est quand il n'y a pas grand chose à dire quoi.
C'est jamais quoi, ça doit être les premiers numéros.
Si, bah oui mais non mais vous verrez en mars-avril après avant l'été et puis
on aura toujours des trucs à dire.
Ouais, bon on verra. Donc on essaiera, de toute façon la conclusion de tout ça, c'est qu'on essaiera de faire quand même quelque chose de pas trop long. Et puis, alors j'ai repêché des commentaires qui étaient sur notre site, pas sur iTunes, j'ai repêché des commentaires qui étaient classés dans la boîte de spam indésirable. On en a énormément et là il y a quelques commentaires qui avaient
qui étaient mis indésirables.
Ouais, tout à fait. Donc si ça vous arrive, vous n'avez pas peur, vous nous faites un petit mail, vous râlez en disant mon commentaire.
Ah, mais c'est ceux qui étaient passés dans le... La moulinette automatique qui choisit que tel commentaire est un spam.
Quoi ? Oui, bien sûr.
C'est pas ceux qui on nous a demandé de...
Ou alors, on, quelques doigts trop gros ont cliqué sur...
Non, c'est pas une demande de revalider.
Comme ça.
Ouais, parce qu'il faut savoir que, vu qu'il y a pas mal de spam quand même en anglais, enfin bien sûr, pour des pilules fantastiques, on peut pas trop... Enfin bref, il faut choisir à chaque fois de devoir approuver les commentaires avant. C'est pas qu'on veut censurer, hein, tout ce que vous mettez passe, mais par contre, on veut virer tout ce qui est anglais.
C'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui vont essayer, vont remettre des commentaires juste pour voir si ça passe. Non, mais en général, dans la demi-journée, on a approuvé.
La course à qui approuvera le premier. Et puis, comme d'habitude, merci à tous ceux qui participent par leurs commentaires sur le site. C'est devenu assez riche. Je ne sais plus, on a eu en fin de semaine dernière un jour où ça n'a pas arrêté d'échanger, etc. C'est très intéressant. On a notamment échangé sur Quarriors. Après, je ne sais plus. Il y a ceux qui ont donné, qui ont participé bien sûr par rapport au dossier de Noël. Ça,
oui, le guide d'achat.
Ouais, qui ont donné leur liste. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait peut-être que je mette dans un commentaire. J'ai vu d'autres listes pour Noël et des très intéressantes, dont celle de Martin Wittberg qui a choisi pour lui que des jeux de 2011. Et donc, du coup, dans sa liste, il n'y a aucun de ceux qu'on a proposé. C'est super intéressant.
C'est la taverne du jeu qui a fait une méta-liste de guide d'achat.
Ah ben voilà.
Bon, ben, je les mettrai sur le site. Je vais faire un renvoi sur le site pour cette liste de guides d'achat.
Je pense qu'il nous a fallu moins de 30 secondes pour glisser d'un sujet à l'autre. C'est super, on va très vite.
Écoute, alors voilà. Donc, salut.
Voilà, bonne soirée.
Merci, celui-là fait 7 minutes 20, c'est très bien, c'est parfait. Voilà.
Pas besoin de faire un sommaire.
Voilà. On y va ?
Allez, allons-y. Et dans ce numéro, nous vous proposons, pour commencer, des brèves, pour se mettre en forme. On va revenir notamment sur Steam Torpedo, on vous parlera également de quelques prix ludiques comme le Trick Track d'Or, d'un nouveau jeu de rôle, Solip City, de la réédition du Trône de Fer. Voilà, je ne vais pas vouloir tout vous dévoiler non plus, il faut nous écouter.
Et une présentation de la première version de Detective Conseil, puisqu'on vous parlera de la version Istari un peu plus tard, quand on l'aura en notre possession. Quelques événements avec les rencontres ludiques qui sont plutôt orientées vers les professionnels du jeu de société. Et puis, Monsieur Tout-le-Monde, Valmienier 2012. Et puis, on vous parlera des écrans avec Forbidden Island, l'île interdite, qu'on a en stock depuis une quinzaine de jours et dont on va vous parler aujourd'hui.
On commence par les brèves.
Ouais. Alors aujourd'hui, puisqu'on vous offre une boîte de Steam Torpedo, on va quand même vous parler de quelques goodies Steam Torpedo. D'abord, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je ne sais jamais trop où est l'avant et où est l'arrière de mon vaisseau, mon navire.
Ah bah.
Si j'ai un problème de latéralisation du sous-marin.
Et perception de la petite...
De la petite quoi ?
La petite figurine. Je ne sais pas, c'est quand même facile de voir où est l'avant et l'arrière dessus, non ?
Oui, mais la figurine n'est pas forcément tournée de ton côté, en fait.
Hein.
Ah oui, parce que les deux figurines sont dans le même sens.
Oui, mais ton avant, du coup, il est du sens où l'avant de ta figurine
pointe. T'as mis le truc... Ah oui, oh là là, bon d'accord.
Okay. Ah, parce que ça, tu mettais les deux figurines dans les deux sens différents.
Non,
vas couper, comment
pas,
ça tu vas couper
pas, je sais pas.
Oh mon Dieu.
Donc, pour ceux qui sont des couillons comme moi... Serious Pulp a mis en téléchargement un PDF avec la proue et la poupe. Et comme
vous
devez
être nombreux
pas,
parce que pour qu'il l'ait mis, c'est que vraiment.
Hein.
Non, puis, c'est pour ceux qui veulent personnaliser.
C'est vrai ?
Ah, je pense plutôt, mais bon. Ouais. Est-ce que tu sais la proue si c'est l'avant ou l'arrière maintenant ?
Très bonne question.
N'est-ce pas ?
Très bonne question. Bon, c'est vrai. Hein. Et passons. Il y a une autre aide de jeu qui est une goodie cette fois-ci sur Jeudi Jeu, qui est en fait des séparations. Avec en fait les cases pour le déplacement des sous-marins. Donc voilà, donc deux aides de jeu, une qui est sur le site de l'éditeur, une autre sur jeudijeu.net, et tout ça pour Steam Torpedo.
Et puis moi je souhaite revenir sur Rallyman, on en a parlé avec l'extension Dirt dans le numéro précédent, et là il refait encore un petit peu d'actualité. Donc ça c'est pour tous les passionnés du jeu qui veulent customiser, qui veulent pimper leur Rallyman, ils peuvent acheter des nouvelles petites MRC, hein, donc les micro-rally cars, pour remplacer les MRC qu'ils ont en plastique dans leur boîte avec des petites voitures en métal au 1/220e.
Excuse-moi, je vous parlerai de Redfit tout à l'heure. J'y ai pensé toutes les journées. Il faut que je parle de Redfit. Donc oui, alors des petites Ford Fiesta.
Tu me coupes, voilà, c'est ça, des petites Ford Fiesta.
Le 1/220e, c'est l'échelle Formule D.
J'en sais rien du tout.
Ça doit être ça.
D'accord, si tu le dis.
Oui, je le dis.
Parce qu'après, il y a du 1/144e aussi. Et donc le 1/220e. Donc on va commencer avec les Ford Fiesta. Donc il y avait un petit lot qu'on pouvait commander sur le site qui est déjà parti, mais a priori, Jean-Christophe Bouvier nous a assuré qu'un deuxième lot serait bientôt disponible. Donc allez-y, vous pouvez commander ça sur le site www.rallyman.fr. Et puis si vous ratez la Ford Fiesta ou si vous ne voulez acheter qu'un set, si vous n'aimez pas Ford Fiesta, ce qui peut se comprendre, il y aura une petite Mini et une DS3, des voitures un peu plus, plus sympathiques.
Hein. Un petit peu plus de chien.
Ouais, c'est ça, hein, un peu plus de gueule que les Fiesta. Voilà. Par contre, moi, petit regret, c'est que du coup, on ne peut pas prendre une de chaque. C'est forcément un lot de 4. 4 Fiesta ou 4 Mini ou 4 DS3. Bref.
Mais ça, il faudra lui dire. Hein. Enfin, voilà. Après, ça sera peut-être des retirages et en fonction de si les moules existent, ils pourront faire ce qu'ils veulent après. Mais bon, il faut déjà que la Fiesta parte et après.
A priori, ils font pas des gros tirages pour l'instant. Donc, ouais.
Et puis on vous en parlait dans le dernier numéro et on va vous en reparler encore cette fois-ci. Et sûrement, peut-être encore plus tard.
On va en faire un fil rouge.
Ouais, c'est ça. Donc Marchand de Vénus est toujours annoncé en février 2012 par FFG. Donc à suivre. Et puis pour ceux qui n'écoutent pas la radio des jeux, alors ça c'est mal. Parce que le dernier épisode avec... Guillaume Besançon était tout à fait sympathique et Guillaume Besançon est un garçon éminemment sympathique et je vous conseille vivement d'écouter le dernier numéro de la radio déjà.
Mais voilà, ceux qui n'ont pas encore fait peuvent le faire maintenant.
Oui, mais alors bon, pour ceux qui n'écoutent pas ou qui l'écouteront plus tard, Dos de Maillot dont on parlait dans le dernier numéro a été traduit à 100% par le joueur et donc Guillaume Besançon penchait plus pour une édition franco-néerlandaise. Et on lui a demandé une édition franco-espagnole plutôt de luxe. Alors ça pourra être pour 2012, et forcément puisque ça parle de la révolte madrilène, ça fait du sens d'avoir une coédition avec les Espagnols. Donc à suivre.
Et puis on parlait d'une très très... C'était la brève la plus courte, je pense, de l'histoire de Proxy Jeux par Olivier. Donc moi, je vais rester sur Fantasy Flight Games qui vient de ressortir une nouvelle version du Trône de Fer. Donc c'est une deuxième édition, 10 ans quasiment après la première qui s'est déjà vendue à des milliers d'exemplaires. Alors, elle reprend... C'est pas un tirage... c'est pas juste un nouveau tirage. C'est vraiment... ils ont repris le jeu de base. Ils ont intégré des éléments, des extensions.
Excuse-moi, est-ce que d'abord... Non, je vais arrêter de m'excuser la prochaine fois que je te coupe. Ouais. Est-ce que d'abord, ils ont changé les illustrations ?
Oui, tout est changé.
Parce que là, les illustrations ont quand même pris un coup de vieux. C'est marqué quand même, je pense.
Wow. Un coup de vieux.
Oui, il y a un coup de vieux, oui.
Elles ont pris vraiment de la gueule. Non, mais c'est oui, je suis d'accord. Les jeux ont évolué en 10 ans.
Mais c'est surtout que globalement la qualité graphique globale de tous les jeux ont vraiment évolué. Donc
Là, ça a vraiment évolué aussi.
Très bien.
Donc, mais je vais y venir après, si je peux. Donc, ils ont repris la boîte de base. Ils ont intégré déjà pas mal de choses qui viennent des extensions, notamment les ports. Mais ça, c'était obligatoire. Ça corrige un bug, on va dire, du jeu de base. La notion de garnison, les cartes sauvageons et les engins de siège.
Mais t'as pratiquement la première édition plus la première extension avec ça.
Ouais, c'est ça. Il n'y a juste pas les cartes maison supplémentaires qu'il y avait eu. Les joueurs vont aussi bénéficier maintenant d'écrans qui va leur permettre du coup de cacher qui va cacher à leurs adversaires du coup un petit peu les jetons qui servent normalement à donner des ordres aux unités.
T'as pas de main, t'as pas de poche.
Bah ouais, mais après il y en a qui repartent avec les jetons dans leur poche.
Ah oui.
Et je les retrouve après être passé au lavage. Donc, c'est mieux, c'est derrière l'écran. Voilà. Et en plus, l'écran, comme ça permet de faire une petite tête de jeu.
Ouais. Donc, c'est bon. Je suis pas super fan des écrans. Mais
Non, moi non plus, mais bon, là, il faut voir, là, ils sont super bien illustrés.
Ils ont changé les illustrations alors.
Et oui, ils ont changé les illustrations. Incroyable. Alors, puisqu'on en est aux illustrations, ils ont aussi changé tout le matériel. Les pions sont en plastique, mais ils ont vraiment une gueule très, très sympathique. Les pions en carton aussi ont été relookés, Olivier. Ils ont également ajouté du coup des nouveaux ordres, des petits ordres spéciaux qui devraient, a priori, ce qu'ils disent, changer le jeu. Bon, je vais pas m'étaler dessus. Ils rajoutent aussi des nouvelles cartes cours de la bataille qui permettent de mettre encore un petit peu plus de chaos dans les combats. Ils ont aussi étoffé du coup les pouvoirs pour l'épée et le messager. On gagne quand on est premier, on a l'épée et le messager. Donc ça donne des pouvoirs supplémentaires. C'est pareil pour s'adapter un petit peu avec ce nouveau système de règles. Et surtout une règle qui est pas des moindres, c'est-à-dire que la boîte de base maintenant permettra de jouer directement à 6 joueurs. Ce qui n'était pas le cas avant puisqu'il fallait l'extension pour intégrer les...
Oui, la première extension.
Les martels. Ouais, c'était encore la première extension. Ouais. Et donc là, a priori, ils ont déjà intégré la carte directement pour jouer à 6. Et si on ne joue pas à 6, il y a un système de pions neutres qui va se passer dans certains territoires pour justement limiter un petit peu le problème qu'il y avait avant quand on jouait à un nombre inférieur à 5.
Oui, puisque dans la première extension, tu as un bout de carte supplémentaire que tu peux mettre...
Oui, que tu n'es pas dessus. Voilà. Donc, bien sûr, tout ça, pour l'instant, c'est Fantasy Flight Game, donc c'est seulement en VO. C'est sorti tout juste là dans les boutiques cette semaine. Donc, quand vous nous écouterez, oulala, c'est tout juste, il en aura encore. C'est tellement les gens vont se ruer dessus. Je ne peux pas vous dire le prix, par contre, que c'est vendu, je n'ai pas regardé. Et en français, Edge l'annonce évidemment, à un prix de 60 euros. Et par contre, je ne sais pas quand ce sera en 2012.
Il n'y a pas de sortie simultanée entre la version FFG et la version Edge?
Non, parce que je ne l'ai pas vu. Alors, il y a eu même quelques privilégiés qui ont pu récupérer une version FFG dès Essen. Ils avaient quelques exemplaires à Essen. Mais bref, non, Edge l'annonce seulement actuellement en préparation sur leur site. Donc quand c'est en préparation, c'est-à-dire qu'il y a encore du boulot, je pense de la trad sans doute, des choses comme ça à préparer. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Restera quand ça va sortir, ben, on va se poser, tous les joueurs vont se poser la question. Changer ou pas changer sa première édition?
Ben, pour moi, non. Enfin, moi, j'ai une version française avec la première extension. Je ne changerai pas, malgré l'illustration un petit peu vieillotte. Par contre, pour celui qui n'a soit pas la première extension, soit tout simplement pas le jeu, il faut y aller. C'est un excellent jeu de conquête de territoire, de négociation. Pardon ?
Qu'est-ce que tu fais des nouvelles règles ?
Des nouvelles règles, mais après tu vas chercher sur internet les anciennes règles et puis tu les
adaptes. T'as pas les cartes, t'as pas tout ça, t'as pas les petits écrans tout beau.
Bon, bah écoute, on en reparlera quand
on verra.
Les premières...
Ça passe un budget quoi.
Et puis il n'y a pas une quinzaine sans préludique. Et cette semaine, le Trick Track d'or ont été décernés. Alors, Trick Track, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site de référence en matière de jeux de société. Et tous les ans, ils décernent leur prix, basé à la fois sur les avis des internautes et sur un jury qui, cette fois-ci, était constitué d'une 60... Alors, je ne sais pas comment on dit une 70aine, de 70 personnes.
Une septantaine.
D'une septantaine de personnes. Et donc, Trick Track d'or 3... Donc de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Urban. Trick Track d'argent, Olympos, de Philippe Kiartz. Et Trick Track de bronze, Les Châteaux de Bourgogne, de Stefan Feld. Et après viennent, dans l'ordre, Navigator, Civilization, Through the Ages, La Gloire de Rome, The Boss, Norenbeck et Sobek, de Bruno Catala.
On peut commenter ?
Pardon ?
On va se lâcher dans les commentaires ?
Ouais.
Déjà,
lâche ton com.
Ouais. Là, déjà, les châteaux de Bourgogne. Alors, 3 arrivent quand même nettement en avance sur le deuxième, sur Olympos.
475 points contre 425 points voilà. Pour Olympos.
Et 423 pour les châteaux de Bourgogne. Ouais, ça se joue, c'est très serré entre les deux.
C'est ça.
Alors, je connais pas les châteaux de Bourgogne. Par contre, Olympos, moi, ça aurait été vraiment mon favori. Non pas que 3 soit mauvais, hein, mais j'ai pas accroché à 3. Mais, alors qu'Olympos, c'est pour moi, c'est vraiment un des meilleurs jeux de l'année 2011. Ce qui m'étonne dans la liste, c'est aussi Through the Ages. Qu'est-ce que fait un jeu sorti il y a au moins 4 ans ? C'était pas 5 d'ailleurs.
Trick Track d'or, c'est en fait les meilleurs jeux de la base de données de Trick Track. Ce sont des jeux qui sont sortis entre octobre 2010 et novembre 2011, qui ne sont pas des previews, qui ne sont pas des extensions, et surtout qui ont bénéficié de au moins une quarantaine d'avis sur le site et qui ont une moyenne brute de 4 sur 5. Ce qui est assez bien.
Une belle moyenne.
Donc effectivement, ça pose la question de savoir si Through the Ages est revenu dans leur base en 2010, parce qu'effectivement c'est un vieux jeu. Enfin, c'est un jeu de 2005 ou 2006.
Ouais, pour moi c'est un jeu qui avait. Enfin bon, c'est un bon jeu. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas pu le tester beaucoup parce que c'est un jeu quand même qui prend du temps. Alors c'est marrant quand on voit des jeux comme Sobek qui sont à mon avis.
Plus léger.
Court, ouais, et qui ont une partie sont courtes, et puis du Through the Ages, c'est un petit peu délicat. Bon, maintenant, les gens qui vont tester les jeux, la plupart, je pense, les connaissent déjà. c'est pas le jury qui y va. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent peut-être pas tous les jeux, mais globalement, c'est du joueur passionné. Donc,
non, tu pouvais voter, tu pouvais te connecter sur le site et voter pour tes favoris. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les jeux, enfin, peut-être que ce que tu es en train de dire, c'est que les jeux auxquels on peut jouer et qui sont plus rapides à jouer vont avoir plus d'avis positifs ou pas, mais vont avoir une meilleure visibilité qu'un Strudy Edges qui
ouais, prend, je veux dire, pendant le week-end, il faut qu'ils aient testé tous les jeux, le jury, c'est pas évident.
Non, mais je pense que ça, c'est...
Parce qu'il y a du Civilization, du Strudy Edges, c'est du costaud. Moi, ce que je voulais noter quand même, c'est dans le classement, ce qui paraît fort, c'est Civilization et... Enfin, dans une civilisation de moins de mesure, mais quand même, et la gloire de Rome, qui sont des jeux sortis tout juste sur les étals là il y a 2 mois, et qui ont déjà réussi à avoir les 40 notes, une bonne moyenne supérieure à 4, c'est quand même pas mal.
Ouais, en fait, si tu veux, quand tu regardes le site, tu vas avoir 3 fiches pour Strudy Edges. Alors, il a bien été édité en 2006 par Vladaj Fatil chez Czech Board Games, et puis après, il a été réédité chez Eagle Games. Et après, ce sur quoi les gens ont voté, c'est la version Yellow. Et la version Yellow est super bien notée, elle est à 4,65, donc c'est une très bonne note. C'est vrai que c'est un très bon jeu.
En français cette année.
Voilà. Et comme La Gloire de Rome, qui est sortie en 2005 dans une petite boîte rouge en import, qui n'était pas largement diffusée, et en fin de compte, il est rentré aujourd'hui, enfin, il est rentré hier, disons, en 2011, dans les bases de Trick Track, mais il avait une distribution quand même assez confidentielle. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont connaître ce jeu, et puis ça va permettre de mettre un petit peu en lumière, peut-être comme Sobeck ou comme les Châteaux de Bourgogne, qui est encore un aléa, je dirais. C'est
un Stefan Feld, surtout.
Oui.
Il crée des fans, hein, un peu partout, c'est du pouspion. Non, je sais pas jouer.
C'est des petits cubes, c'est des mécanismes arides, c'est cool. Quoique, je suis toujours traumatisé par les rats dans Notre-Dame, donc non, c'est pas tout à fait aride et c'est pas tout à fait des pions en fait. Ouais. Non, Stefan Feld, c'est une référence. Bon, bah voilà, donc je dirais, on a eu à 15 jours d'intervalle et le prix Board Game Geek et le prix Trick Track qui n'a rien à voir. Et puis c'est chouette. Alors reconnaissez-vous plutôt dans les jeux allemands et puis la tendance française, ou alors plutôt dans Board Game Geek?
Ouais, bah, c'est plutôt une tendance très française. Enfin non, pas très.
Merde. Si, bah si.
Parce que ça se passe. Une tendance française assez européenne, carrément européenne en fait, dans la sélection Trick Track. Mm. Et même assez française, ou en tout cas belge. Hein. Puis c'est plutôt des Belges qui trustent le podium.
Oui, ah oui.
Et bravo à eux.
3, c'est comme.
Bah oui, même Olympus, de Fickert, c'est.
Oui, enfin, Olympus, c'est
clair. C'est un éditeur français, mais je parle au niveau des auteurs. Ouais. Bon, c'est compliqué, il va falloir couper.
Donc, une petite pensée pour Istari qui arrive encore une nouvelle fois deuxième et qui, pour l'ensemble de son œuvre, je pense, va être récompensé un jour juste parce qu'il est arrivé deuxième tout le temps et qu'un jour, il faudra le récompenser quand même. Et puisqu'on parle de Board Game Geek, Board Game Geek needs you. Comme tous les ans, vous pouvez donner, faire un don pour que Board Game Geek puisse exister ou qu'ils puissent mettre un petit peu de beurre dans leurs pâtes. Je ne sais pas s'ils mangent des pâtes, les Américains.
En burger ?
Ouais. Alors, je vous laisse aller sur le site. Il y a un bandeau qui est assez explicite. Vous pouvez donner par PayPal, c'est assez simple. À partir de $15, quand vous donnez, vous avez un logo pour dire que vous avez donné à Board Game Geek. Et puis, l'idée, c'est qu'il y a BGG, c'est 14 serveurs, c'est 7 emplois à plein temps. Et que forcément, la pub, ça doit aider un petit peu, mais c'est quand même bien que les gens...
Des emplois à plein temps ?
C'est ça, ils disent qu'il y a 7 emplois à plein temps.
C'est même pas du temps libre.
Non, non.
Comme nous, pour notre podcast.
Ouais. Mais quand on aura besoin de 14 serveurs, on pourra en reparler.
Côté des sorties, ça va se bousculer un petit peu dans les prochains jours, mais je voulais vous parler d'un qui est déjà disponible, c'est Nightfall.
C'est des sorties qui sont réellement en boutique ou des sorties qui seront en précommande et qu'on va attendre jusqu'à janvier prochain?
Ah, j'en sais rien, je pleure, moi aussi j'attends un tournoi au Rail Labora, mais a priori ça arrive là d'ici 10 jours.
Oui, cette semaine, c'est cool.
Donc voilà. Alors là je vais parler Nightfall qui est arrivé, c'est sûr et certain, la semaine dernière au moins. C'est donc un jeu de construction de deck, c'est à la mode en ce moment évidemment. Tous les éditeurs vont vouloir avoir leur petit jeu de construction.
Donc celui-là, il reprend une thématique un petit peu différente, on va dire, de ce qui se fait actuellement. C'est plutôt sur les vampires, les loups-garous, toutes ces bêtes de la nuit. Dans l'histoire, c'est que bah, la nuit est sur Terre pour toujours maintenant, donc toutes ces bêtes
pas mal, ressurgissent. Elle pullule.
Ouais, ça pullule, voilà. Donc c'est un jeu de combat, d'affrontement entre les joueurs, avec donc un mécanisme de construction de deck, et surtout, il a un système... Ils appellent ça le système de chaîne ou d'enchaînement, je sais pas exactement, qui permet donc tous les joueurs de jouer en même temps. C'est-à-dire que les joueurs jouent des cartes, elles ont des symboles, et les autres joueurs peuvent également amener des cartes qui partagent le même symbole. Mmh. Et ensuite, une fois que tout le monde a joué, on va résoudre toutes les cartes dans l'ordre. Donc ça permet à tout le monde de jouer en même temps. L'inconvénient, c'est que bah, c'est un jeu d'affrontement, donc il faut réduire les points de vie de l'adversaire à zéro pour le tuer.
Et pourquoi c'est un inconvénient, ça ?
Et bah parce que du coup... ça va être un petit peu long parce que forcément on a des créatures pour se protéger, etc. Et donc ça va être un petit peu long d'aller cogner ses adversaires.
Tu veux dire que c'est pas les 20 minutes de Quarriors.
Et on est là, voilà, on est loin des 20 minutes habituelles d'un Dominion ou d'un Quarriors. Thunderstone c'est un peu plus long, mais là a priori on dépasse l'heure. Donc là c'est, ça risque d'être un petit peu gênant. Toujours est-il que la version anglaise était sortie au printemps, il y avait eu des cartes promotionnelles et Yellow a eu la bonne idée de les inclure directement dans la boîte française.
Ah, c'est bien ça.
Donc ça, c'est pas mal. L'autre truc moi que je reproche un peu au jeu, c'est son graphisme. Ça fait très... enfin, je sais pas. On parlait justement tout à l'heure de Trône de Fer, réactualisé, hein. Super sympa. Ouais, c'est les graphismes un peu old school. Alors, ceux qui ont fait du jeu de rôle dans leur jeunesse, ou qui font encore peut-être, du vampire, du loup-garou, qui existait là chez White Wolf, c'est tout à fait dans ce style-là. Le jeu est vraiment dans cet esprit-là.
Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Shadowrun, mais un truc un peu vieillot à la Shadowrun.
Enfin, ah oui, oui, au niveau des graphismes, je suis d'accord. Ouais, ouais. Bah, c'est le côté nuit, en fait, qui doit faire ça. Tous les jeux cyberpunk sont toujours de nuit.
Oui, c'est ça.
Donc, Nightfall, c'est disponible là, maintenant, tout de suite. C'est vendu entre 30 et 35 euros. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans, pour une durée annoncée de 45 minutes.
Et puisqu'on parle de deck building game, je voulais signaler une sortie en Kickstarter, c'est la Miskatonic School for Girls. Alors c'est un jeu édité de Luc Peterschmidt qui se déroule dans l'univers de Lovecraft, l'université Miskatonic. En fait, il y a des maisons qui vont se tirer d'abord les unes les autres. Et en fait, le petit plus de cette version, puisque chaque éditeur essaie de sortir son deck building en essayant de mettre un petit peu d'originalité, c'est que là, tu ne crées pas ton deck. Tu vas créer le deck de tes adversaires. Tu vas en fait pourrir le deck de tes adversaires. Donc c'est assez original. Je ne sais pas si ça a un grand intérêt, mais voilà, je trouve ça rigolo.
Alors, juste au passage, on va en reparler un petit peu plus tard, mais dans Dominion aussi, on pourrit beaucoup les decks des autres. C'est toute la part d'interaction qu'il y a dans Dominion. Donc,
par contre, est-ce qu'il y a la santé mentale dans Dominion ?
Non, voilà, par contre, c'est pas, on pourrit les decks pour gagner, mais ça n'influe pas comme dans celui-là. L'autre chose, c'est qu'avec un nom comme ça, on serait attendu à des graphismes un petit peu version japonaise, tu vois, avec des filles dans des tenues incroyables. Eh bien non, pas du tout. En fait, les graphismes sont tout à fait...
enfantins ?
Enfantin, non, c'est pas... Je sais pas si c'est enfantin, ouais. En tout cas, il y a quelques cartes qui sont présentées sur Kickstarter qui me font bien rire. Déjà, il y a pas mal de jeux de mots, il y a pas mal de petits clins d'œil. Ça m'a l'air sympathique. Je vais regarder.
Tu vas t'y intéresser ?
Parce que...
Jérémy s'intéresse aux jeunes filles.
C'est ça. Donc, non, voilà. C'est en anglais par contre, mais ça gêne pas.
Bah, c'est un Kickstarter.
Non, mais j'aime beaucoup le côté... les illustrations, enfin, c'est le genre de truc qu'on retrouvera pas après le Kickstarter. S'il doit être édité, ils vont... Il n'y aura pas ça. Regarde, il y a Lunch Lady Lulu, là.
Ah, donc, ça, je le mettrai, tu vois. Je mettrai Lunch Lady Lulu.
Et il y a Charlotte D. Ward, donc, qui connaissent un petit peu l'univers de Lovecraft. Il y a des clins d'œil, il y a des bouquins de Lovecraft.
Donc, la Miskatonic School for Girls, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est 60 minutes. 8 ans et plus, ah non, 12 ans et plus, et c'est un Kickstarter pour ceux que ça intéresse.
Et à l'heure où on parle, ça fait déjà 5 heures qu'ils ont atteint le...
Non, mais les Kickstarters, ils atteignent toujours le quota. Enfin, c'est incroyable. Non, mais
ça allait super vite.
Puis on parle quand même assez rarement de jeux de rôle. On parle beaucoup de jeux de cartes, beaucoup de jeux de société. Assez rarement de jeux de rôle. Il y en a un qui m'a fait de l'œil, d'ailleurs, il est mien maintenant. C'est Solipsity. Alors, le pitch est 29,80€.
La vache.
Ben oui, mais en fait, c'est là que tu dématérialises un petit peu ton achat. C'est pas un bouquin de. Comment il fait ? 40 pages, 50 pages, 60 pages ?
64 pages.
C'est pas un bouquin de 64 pages que tu achètes. C'est un scénario, c'est des aides de jeu, c'est un système de jeu. Donc, enfin, c'est pas.
Oui, non, mais. Voilà, quoi. Je dis pas, mais par rapport au petit livret que j'avais en main, je m'attendais pas à un prix aussi costaud.
Voilà. Donc, vous savez déjà, c'est 30 euros. Et le pitch, c'est que New York, aujourd'hui, vous vous réveillez à 6h17 et vous découvrez que la ville est abandonnée. Alors, imaginez I Am a Legend. Alors, sans les arbres qui poussent au milieu de la rue, vos voisins, vos proches, tous les habitants ont disparu.
Sur la couve, c'est faux. Il y a encore des lumières, il y a encore des voitures dans les rues.
Oui, non, c'est New York sur la couverture. Donc, c'est les 12 singes qui ont fait ça. C'est un clé en main, c'est-à-dire qu'il y a 10 personnages. Il y a une règle qui fait 6 pages, bon, qu'ils ont un petit peu oublié dans les exemplaires et qu'ils mettent en téléchargement sur leur site. Les 6 pages de règles, ils ont juste oublié de les imprimer. Mais c'est assez simple à... C'est un peu, tu déchires l'enveloppe plastique, tu distribues les personnages à tout le monde et puis va de la galère. Alors c'est 5... Quoi ?
Oui, d'accord. Je ferai pas de jeu de rôle avec toi en tant qu'MJ. Une campagne, ça se prépare. Si tu l'ouvres et que tu dis
non,
allez, on joue,
non, mais quand je dis ça, c'est oui, effectivement. Enfin, il faut quand même lire le bouquin. Mais grosso modo, si tu veux, tout est là.
Non, c'est pas mal du tout, en fait.
Tu n'as pas à préparer le scénario de fond en comble. Tu n'as pas à réfléchir à des mécanismes de rebondissement divers et variés. Si tu veux, j'ai lu le premier scénario. Pour moi, il est très très bien fait. Il y a vraiment, tu places les joueurs dans une ambiance. Il y a quelque chose que tu installes vraiment un environnement. Et puis t'as vraiment de quoi faire un truc vraiment sympa.
Ah, puis les illustrations sont sympas, c'est bien, hein. Je trouve que la mise en page est bien faite, c'est bien illustré, c'est clair à lire.
Et puis, ce que tu n'as pas vu, c'est les aides de jeu. Bon, il manque la règle, mais il y a quand même tout un tas de, il y a une chier d'aides de jeu.
Ah oui, c'est ce que j'avais demandé. C'est pour ça que c'est les aides de jeu en téléchargement, pas parce que souvent on donne des trucs aux, on donne des aides de jeu pendant l'enquête aux joueurs.
Ouais, mais c'est ça, t'as des coupeurs de journaux, t'as plein de trucs, un plan de New York.
C'est une fois.
Non, si, puisqu'il y a... Oui, c'est un one-shot, ouais, tout à fait. Alors, les 12 singes, vous les connaissez peut-être. Alors, ils ont fait d'autres clés en main, 2012 Extinction. C'est en novembre 2012, la fin du monde, et les joueurs vont devoir enquêter sur pourquoi, du comment. Ou Asgard, le crépuscule des dieux. Alors je pense que c'est juste des backgrounds et puis après c'est des enquêtes. Enfin, je ne connais pas ces deux clés en main, mais vu ce que je vois pour Solipsity, ça doit être vraiment sympa à jouer. Et puis d'autres jeux de rôle et aussi des jeux de société, ils ont fait plein de petits jeux de cartes. Ils ont fait Diams, ils ont fait Rock'n'Brock, Ludologa.
Ils ont fait un autre jeu de Ludologa aussi un peu avant.
Anabi et Ikebana, ouais. Ils ont fait Poker d'Enfer. Et bon, ils sont surtout axé sur les jeux de rôle, mais aussi des petits jeux de cartes comme ça. En fait, il y a 5 actes qui durent 6 à 8 heures, qui font une campagne qui dure à peu près 40 heures. Il y a 10 personnages différents.
Pourquoi 10 personnages Bon, sans vouloir révéler, c'est parce que les joueurs vont jouer un autre personnage ou c'est au cas où il y a des morts en route?
C'est au cas où il y a des morts en route.
C'est dommage.
Il y a un mécanisme qui est très bien fait où, en fait, si tu as un personnage et que tu meurs, tu vas pouvoir te réincarner, tu vas pouvoir continuer l'aventure.
Donc finalement, il y a quand même du monde dans New York.
Il y a 10 personnages.
Voilà. Alors par contre, ce que j'aime bien, c'est que vous ne faites pas avoir quand même. C'est marqué, les joueurs choisissent leur personnage, et chacun se munit des dés, et l'aventure commence sans plus de préparation. Et en même temps, il y a quand même un tampon juste à côté qui met MJ expérimenté. Donc voilà, c'est pas une introduction au jeu de rôle non plus. Il faut déjà que l'MJ soit habitué effectivement à broder autour d'un avis d'un scénario, ouais. Sortir des situations un petit peu, peu compliquées.
Le scénario, enfin, pour moi, je suis allé jusqu'au milieu, c'est-à-dire j'ai lu deux actes. Je sais pas comment ça finit, mais j'ai vraiment envie d'y m'y mettre parce que t'as vraiment quelque chose, t'as vraiment du potentiel, t'as vraiment la possibilité de mettre tes joueurs dans un super environnement. C'est carrément I Am a Legend. C'est carrément le mec qui est tout seul dans la ville, quoi. Et c'est New York, tu vois, c'est grandiose. Vous l'aurez compris, je suis un peu sous le charme de cette voilà. Truc-là.
Et donc, tu vas le jouer dans la semaine, là ?
Non.
40 heures, plam. 5 jours, 40 heures. 5 jours de 8 heures, au lieu de travailler, tu vas faire 5 jours de jeu.
Non, je cherche actuellement une équipe et quand j'aurai constitué, j'y vais. Alors, excusez-moi de ne pas en dire plus concernant... le fond de l'histoire, mais il faut pas déflorer le, il y a pas de spoiler, sinon on va se faire engueuler. Mais c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de jeter un œil sur. Si vous avez vraiment envie de quelque chose qui est pas trop long et qui est assez maîtrisé. Jetez un œil sur cette gamme, je pense, les clés
en
main.
Et puis on en a parlé en off avec Olivier. Moi, je trouve que c'est un prix qui est tout à fait bon par rapport au fait qu'on a une campagne complète à ce prix-là. Et contrairement à des jeux de rôle style Cthulhu, je ne remets pas en cause Cthulhu, hein, c'est très bien.
Oui,
mais simplement, quand on veut se faire juste une campagne d'un jeu de rôle, s'il faut acheter le jeu de base, plus éventuellement une campagne, etc., on en a vite pour plus que 30 euros.
Donc, Sleep City pour 2 à 5 joueurs, 40 heures de plaisir pour 30 euros. Alors, j'en profite pour parler de... Je vais faire une petite aparté.
C'est la brève qui dérape là.
Non,
sur Dreadfleet. Dreadfleet, c'est le sujet du moment.
C'est un peu le problème que je rencontre, c'est à la fois un problème de temps, c'est aussi un problème de construction en fait. C'est-à-dire que les bateaux, c'est des bateaux que tu peux normalement construire et démonter, sauf qu'il y en a pas mal, il y en a 10. Et si tu les démontes et tu les remontes à chaque fois, c'est un peu la merdasse. Le problème.
Pour
c'est
parler
faut...
foliment.
Oui, c'est ça. C'est un peu la bip. Le problème, c'est que il faut. Pour pouvoir peindre, avoir sous-couché. Et pour pouvoir jouer, il faut, et pouvoir les assembler, il faut les avoir peints. Donc c'est un petit peu plus compliqué que les autres jeux auxquels j'ai joué. Space Hulk, tu prenais les figurines, tu les assemblais, tu les sous-couchais, tu les peignais. Tu pouvais commencer à jouer alors qu'elles étaient sous-couchées. Ici, comme il y a plein de petites... Enfin, c'est tellement détaillé qu'il faut peindre à l'intérieur des bateaux, il faut que tu assembles après avoir peint.
Ouais.
Ce qui explique que je vous reparlerai du JCE du Seigneur des Anneaux, que j'ai beaucoup aimé, et auquel je joue très souvent. Je vous reparlerai de Warriors, que j'ai beaucoup aimé, et auquel je joue très souvent. Mais vous allez attendre un petit peu avant que je vous reparle de Dreadfleet. Sleep City, vous pouvez le trouver chez notre sponsor Ludic Bazar pour un peu moins de 30 euros. Et profitez-en pour vous grouper, pour faire vos achats chez Ludic Bazar en ce moment. Parce que pour 250 euros d'achat, vous pouvez choisir un jeu de société en français parmi Dungeon Pets, Age of Conan, l'âge de Conan, le jeu de plateau, Vanuatu, et puis Puerto Rico ou Gozu et Kamatkor, son extension qui font qu'un seul jeu. Donc ça, c'est pour 250 euros d'achat, vous choisissez un jeu. Et si vous atteignez 500 euros d'achat, ce qui va assez vite si on se groupe, vous pouvez choisir 3 jeux parmi ceux-là, donc bah, c'est pas mal. En général, c'est un petit peu du caca ce qu'on nous propose. Là, en l'occurrence, Vanuatu, Dungeon Pets, Kamakor, Puerto Rico en français. C'est quand même une belle offre, donc il faut en profiter.
Et puis on va... Alors, c'est une brève un peu longue.
Encore ?
Ouais, bah toi aussi.
On n'a pas commencé à dire que. Comment ça ? J'en ai une un peu longue ?
Ouais.
On n'a pas commencé à dire qu'on faisait plus court qu'il y a 15 jours ?
Ouais, mais on a. Oui, bah si, on devrait être plus court. Mais on a un peu innové avec une rubrique où on présente des jeux qu'on a aimés. Et oui. On essaie de coller à l'actualité.
Oui.
Donc en l'occurrence, vu qu'il y a Dominion Arrière-Pays qui sort, c'est la nouvelle extension.
Mais c'est pas des brèves alors.
En français. Ben, si, voilà. Dominion Arrière-Pays est sorti. C'est une extension pour Dominion, standalone, à une trentaine d'euros. T'as vu, ça c'était bref. Mais après, du coup, on va en revenir et c'est peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur Dominion et toutes les extensions.
Tout à fait. Mais alors ouais. Là, on sort de la brève.
Je propose donc qu'on continue notre rubrique commencée il y a quelques numéros sur les jeux qu'on aime bien. On est à la fois sur de la brève et de sur de l'actualité. Et, hein,
donc, avant, on faisait des brèves.
Voilà,
après, on a fait des brèves et puis après, on critiquait les jeux qu'on aimait bien. Et maintenant, tu proposes qu'on fasse brève entre les deux, puis après critique, c'est ça ?
Ouais, si on veut. En fait,
ok,
mais
allons-y.
Pourquoi pas de critique aujourd'hui ?
Un peu le bazar cette semaine.
Bah. Ouais, mais c'est pas grave. On a des auditeurs qui aiment quoi qu'on dise.
Alors... Ouais, pourvu que ça dure, hein, moi je dis.
Et ouais, c'est comme ça, on est bien organisé à propos de ces jeux. Alors, moi je voulais parler de l'extension Asie des Aventuriers du Rail. J'ai eu l'occasion d'y jouer ce week-end, et en fait pour moi c'est la meilleure extension qui est sortie pour ce jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait on peut y jouer en équipe. Alors, dans la boîte, il y a un plateau qui est double face, donc il y a deux versions, deux cartes bien différentes. Il y en a une, deux...
Il y a le catalogue des Zomondeurs dedans.
Merci. Pète ma news. Voilà, donc... Donc dedans, il y a l'Asie légendaire qui a été gagnée lors d'un concours du meilleur plateau par François Valentine. Et puis, alors celui-là, je ne l'ai pas testé encore, mais il a de bonnes idées, a priori. Mais surtout, actuellement, ce que j'ai testé, ce que je trouve qui renouvelle vraiment le jeu, c'est la version Asie par, en équipe par Alan Moon. Et en fait, le concept est très fort. Et déjà, c'était un jeu qui jouait très bien à plusieurs, qui est assez léger, etc.
À plusieurs, mais tout seul.
Ouais, à plusieurs, mais tout seul. Mais je veux dire, autour de la table, c'est sympa comme jeu avec des non-joueurs. Et là, en équipe, ça rajoute encore une dimension. Alors pourquoi ? Les joueurs, en fait, en début de partie, ils ont 5 objectifs, ils doivent en garder
3.
Ouais. Et il y en a un, en fait, il y a des réglettes dans la boîte qui va être mise entre les joueurs.
Des réglettes en bois.
Des réglettes en bois.
Ah, tu veux dire que tu partages
des cartes, mais pas toutes. Excellent. Tu partages un objectif en début de partie que tu mets sur la réglette. Et puis après, dans le jeu, quand tu vas piocher des cartes wagon,
ouais.
Tu vas dans les deux que tu pioches, il y en a forcément une que tu dois mettre sur la réglette. Alors toi, tu peux les utiliser, mais ton partenaire
ton
aussi.
Coéquipier.
Voilà. Et alors tu joues les deux partenaires l'un après l'autre. Donc ça permet de faire quelques trucs intéressants, quelques combos intéressantes.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est tout bête en fait comme type de règle, mais pourtant ça a vraiment ça change vraiment le jeu. Par contre, c'est un petit peu plus long.
Donc tu joues sur un plateau qui est assez semblable à l'Amérique ou la Suisse ou la France.
Ouais.
Ou l'Europe,
ouais.
Pardon.
Avec des tunnels à nouveau.
D'accord. Alors il y a les tunnels. Et par contre, le vrai élément différenciant, c'est la coopération.
C'est la coopération, ouais.
D'accord.
Mais ça change vraiment les choses. Il y a aussi une action qui est possible qui est à son tour de jeu. Donc au lieu de piocher des cartes, wagons, des objectifs ou de poser des routes, on peut prendre deux de ces objectifs et les mettre sur la réglette pour partager avec son partenaire.
Deux objectifs.
Ouais, partager deux objectifs. C'est pas mal, hein, c'est important. Enfin, je trouve que c'est bien de partager les objectifs parce que ça aide vraiment à mieux synchroniser les couleurs qu'on va prendre de wagon et puis les parcours.
Alors, ça veut dire que moi, j'aurai une couleur, toi, tu auras une couleur et les objectifs sont propres à une couleur.
Si on est partenaire, non. En fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que les joueurs partagent la couleur. Il y a 54 wagons, en fait. Donc, par exemple, tous les deux, on jouera rouge. Tu auras 27 wagons rouges et moi, j'en aurai 27.
Il n'y a pas 57.
Non, parce que tu es obligé de prendre la boîte de base et tu rajoutes les 9 wagons qui sont fournis en plus là dans l'extension.
D'accord.
C'est pareil, tu n'as pas les cartes wagons là, il faut les rajouter. Ben, enfin, tout ça pour dire que si vous n'avez que les aventuriers du rail, que vous en êtes un petit peu lassé, c'est sans doute l'extension vraiment à avoir pour ressortir ce jeu et avoir à nouveau autant de plaisir à y jouer. Jusqu'à 6 joueurs d'ailleurs.
C'est dommage, on ne l'a pas mis dans notre guide d'achat de Noël.
Si, on en a parlé un petit peu.
D'accord.
Si, on en avait parlé, mais à l'époque, je ne l'avais pas testé.
Ouais.
Et vraiment, cette dimension équipe, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je voulais vous en faire profiter.
Eh ben, très bien. Donc, les aventuriers du rail Asie, c'est pour deux, pas 2 à 4, c'est plutôt 4 à 6.
Mais l'autre carte doit être jouable à partir de 2.
D'accord. C'est de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, une demi-heure à une heure. Et ça coûte.
Comptez
à
plutôt
peu
une
près...
heure en équipe, ouais, parce que ça. Comme les équipiers discutent entre eux, c'est un petit peu plus long.
25-30 euros.
Ouais, 25 euros.
On parle un petit peu des jeux qui nous tiennent à cœur.
Et qui sont dans l'actualité.
Et qui sont dans l'actualité.
Parce qu'on est presque encore un peu dans les brèves.
Non, on n'est plus dans les brèves.
On n'est plus dans les
brèves.
J'ai
entendu la musique.
Ah, j'avais pas entendu.
Ouais.
Tu la remets un coup ?
C'est bon, tu l'as entendu là maintenant la musique ?
Ah ouais, effectivement.
Bon.
Toujours aussi punchy.
Et puis moi ce soir, je voulais vous parler de Détective Conseil. Alors, le Détective Conseil, c'est un jeu qui est repris actuellement par Istari et qui a été rénové de fond en comble, mais je ne vous parlerai pas de la version Istari. On vous en parlera. Oui, grosse déception. On vous en parlera quand il sera sorti, enfin quand on l'aura eu dans les mains et qu'on pourra faire un petit peu une comparaison entre le avant et après.
Jouer.
Bah déjà, il faut savoir que c'est Spiel des Jahres 1985, jeu de l'année.
Pas mal.
Qu'il a reçu moult prix dans les années 80. Et le jeu de base, qui regroupe 10 scénarios, a été suivi par une première extension qui s'appelle Meurtre à Carlton House, qui contient 5 nouveaux scénarios et qui a eu deux autres suppléments. Le deuxième supplément, c'est l'affaire de l'oiseau de papier avec énormément de choses. Il y avait des aides de jeu avec des journaux, cartes de la ville, cartes postales, etc. Et qui était une grosse enquête, alors que les autres sont plutôt des petites enquêtes. Et puis un autre supplément, qui est l'affaire de Queen's Park, contient énormément de dettes de jeu, et qui est une seule énigme.
Tu les as, ces extensions?
Alors, oui, j'ai Meurtre à Carlton House. Alors non, j'ai pas tout. Parce que quand j'ai mis la main sur mon détective conseil il y a quelques années, je l'ai payé fort cher et je l'ai payé avec le jeu de base et les 5 nouveaux scénarios.
C'est pour ça parce que je pose la question, parce que les deux autres extensions, les 2 et 3, elles sont très très dures à trouver.
Ouais, on peut en trouver des scans un peu partout, mais enfin un peu partout. je m'avance peut-être un petit peu. Donc voilà, alors, détective conseil, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on a en main la version de 1985, déjà on a un classeur. Qui ne va pas être pris par Istari. Ils ont fait le choix de la boîte et pas du classeur. Dans ce classeur, qu'est-ce qu'on a? On a le London Times, qui est un journal. Et en fait, on a vraiment un journal avec des articles que l'on peut feuilleter et qu'on a tout le loisir de feuilleter quand on commence l'aventure. On a également l'annuaire de Londres. Alors, c'est incroyable. Par exemple, si on ouvre la page D, on a Da Silva Timeto, David Essam, Dashawa Rodney, je ne veux pas vous le faire tous parce que voilà. Et c'est l'annuaire de Londres. Et
c'est avec Toulouse ?
Non, je ne sais pas. Autre chose, alors ça, je vous parle du support en fait de jeu, c'est le plan de Londres. Et le plan de Londres qui est découpé en zones, exactement comme Londres des années du 21e siècle. Donc on a nord-ouest, centre-ouest, centre-est. Alors c'est vraiment le centre, ça va de Regent Park à Hyde Park. Ça descend en dessous de St. James Park et Green Park, pour ceux qui connaissent. Ouais, et puis, après, c'est en dessous de Tower Bridge, de Tower of London, Tower Bridge. Donc, c'est vraiment le centre historique de Londres. C'est le Londres de Sherlock Holmes. Il y a énormément de rues, il y a énormément de choses à visiter. Et tout renvoie vers l'annuaire. C'est-à-dire que quand on a quelque chose, on cherche quelque chose sur le plan, on va renvoyer vers l'annuaire. Et puis, enfin, c'est plutôt l'inverse. L'annuaire va renvoyer vers tous les quartiers de Londres. Et puis, on a des petits livrets. On a la règle du jeu, mais qui est assez courte et qui est assez simple. Je vous détaillerai tout à l'heure. Et puis, on a d'un côté les mémoires et de l'autre côté, on a
les énigmes.
Les énigmes.
Ta.
Donc, les énigmes sont les questions. Donc, chaque affaire, il y a une dizaine d'affaires dans le jeu de base. Après chaque affaire, on va répondre à des questions.
Et les joueurs marquent des points en fonction des réponses.
C'est ça, tout à fait. Et l'idée, c'est qu'on va se mesurer à Sherlock Holmes. C'est-à-dire que Sherlock Holmes, lui, il va résoudre chaque énigme de façon quasi parfaite. Et on va voir en combien de temps, c'est-à-dire en combien de chapitres, on a résolu l'énigme. Et on va se reporter, surtout, ce qui est important, c'est qu'on va se reporter au petit livret. On va dire, voilà, bon, la sixième affaire, les questions, schlac, 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 schlac. Et c'est là qu'on va déchanter. Parce que l'idée, en fait, dans Sherlock Holmes, c'est qu'au départ, on va être confronté à une énigme. Watson qui va... Driffet qui va dire voilà il s'est passé quelque chose, à vous de jouer. On va avoir le champ complètement libre, c'est-à-dire avec les supports dont je vous ai parlé, l'annuaire, le plan de Londres, tout ça.
C'est ça le plus dur, je pense.
Il va falloir creuser, il va falloir s'interroger, se dire ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que avec la situation dont on nous a parlé, qui est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va d'abord sur les lieux du crime? Est-ce qu'on va se renseigner? Parce qu'il y a un truc assez intéressant, c'est qu'on a un certain nombre d'indicateurs. On a dans les différents journaux, à Scotland Yard, la compagnie de cochers. On a des gens qui reviennent régulièrement et qu'on va pouvoir aller voir. Chacun de ces informateurs correspond à un paragraphe. À chaque endroit de Londres correspond à un paragraphe. Et on va se reporter au paragraphe un petit peu à l'image des livres dont vous êtes le héros. Et on va lire tout simplement le paragraphe. Donc l'idée, c'est que, alors moi personnellement, je vais vous dire la façon dont je le joue, ça peut se jouer un petit peu différemment, c'est qu'on va être 3, 4, 5 autour de la table, on va lire l'introduction, et puis on va commencer à discuter de ce qu'on fait. Tout le monde discute en disant, moi je ferais ça, moi non, j'irais plutôt voir un tel. Et puis quelqu'un va commencer à regarder dans le journal si à la date de l'énigme, ou un petit peu avant, il trouve des informations intéressante. Il y en a un qui va prendre l'annuaire en disant « Ah bah tiens, j'ai vu que monsieur Intel, il vit à cet endroit-là, donc on pourrait aller le voir. » Et après, c'est ouvert. Donc, la façon dont on le joue, nous, c'est que la personne qui a le classeur va décider. C'est-à-dire, on discute, tout le monde discute, et on échange sur les possibilités offertes par l'enquête. Et après, celui qui a le classeur dit « Bon bah voilà, on va aller à cet endroit-là et on va faire ça. »
Ça fait un peu tyran, hein.
Non, ça laisse. C'est un peu comme dans tous les jeux coopératifs, ça laisse le libre arbitre à celui à quelqu'un.
Oui, il faut quand même que je décide.
Et puis ça marque un petit peu la décision. Donc ensuite, c'est complètement libre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire les choses dans l'ordre qu'on veut. La durée d'une partie est complètement variable parce qu'on peut décider de courir et puis d'aller chercher des informations à droite à gauche et puis en fait de faire un nombre incalculable de paragraphes et puis d'avoir les réponses à l'énigme mais en ayant brûlé un petit peu la chandelle et puis en ayant couru à travers Londres. Ou alors on peut réfléchir, on peut prendre le temps d'aller voir des gens ou aller confronter des idées qu'on a sur des situations tout à fait importante, et c'est dans cette situation-là qu'on se mesure à Sherlock Holmes. Parce que Sherlock Holmes, en général, lui, il faut 3, 4, 5 paragraphes pour comprendre complètement la situation et aller voir les bonnes personnes et, avec ce que leur disent ces personnes, résoudre l'énigme. Pour le coup, chez nous, ça marche pas.
Ouais, je peux préciser.
Oui, bien sûr.
Sherlock Holmes, il est connu pour s'attacher aux détails, faire attention aux détails, et du coup, c'est comme ça qu'il résout ses enquêtes. Et ben dans le jeu, c'est un peu pareil. Alors, je sais pas comment. Enfin, sur cette version-là, en tout cas, c'était. Je me rappelle avoir fait une partie avec Olivier. On a raté un petit détail de rien dans le truc de départ. Et ce qui fait qu'on a couru un peu dans tous les sens. Qu'à la fin, au bout d'un moment, on avait un petit peu calé. On savait pas trop. Donc, on a décidé qu'on arrêtait là l'enquête. Ensuite, on a répondu aux questions. Mais je me rappelle qu'on a été passé à côté d'une bonne partie de l'enquête parce qu'on avait raté le fameux détail que Sherlock Holmes, par contre, lui, n'avait pas manqué de déceler.
Donc, petite mise en garde, le fait que ce soit complètement libre et qu'on ne soit absolument pas sur des rails, ça peut en déstabiliser plus d'un. Le fait qu'il y ait toute cette masse d'informations dans lesquelles il faille chercher, ça peut aussi, pour moi, être un frein à certaines personnes qui vont se sentir un petit peu à l'écart parce qu'ils vont avoir quelque chose de plus léger ou qui ne voudront pas forcément participer à la recherche d'indices.
C'est plus accessible peut-être à ceux qui ont déjà fait du jeu de rôle ? Parce que dans un jeu de rôle, on est un petit peu confronté à cette.
Je sais pas.
En début d'un jeu de rôle, souvent pose un problème en début de partie, et ensuite les joueurs sont libres d'aller.
Ouais, il faut faire preuve d'initiative. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, dans ce sens-là, peut-être. Ouais. Alors, le problème qu'il y avait dans le jeu d'origine de 85, c'est que certaines histoires sont assez cousues de fil blanc. Quand tu suis un petit peu les indices qu'on te donne, il n'y a pas beaucoup de challenge. Ou alors, il y en a trop. C'est-à-dire qu'il y a une enquête en particulier où il y a trois fois rien. Il y a un code, il y a un message codé, et c'est tout.
Si tu ne décodes pas le message, tu ne fais pas du
coup. Ben voilà.
Ça commence bien.
Ben, tu vas prendre... Non, alors attends, il y en a une autre. Je vous la lis, je me permets de la lire parce que ça déflore en rien l'histoire et ça vous permet de voir un petit peu ce que ça peut donner. La première distribution du courrier du matin nous apporte le message suivant. Le 17 août 1988, mes chers amis, regardez attentivement le Times d'aujourd'hui. Je pense que vous y trouverez quelque chose d'intéressant. J'en discuterai avec vous plus tard, Holmes. Et maintenant, démerdez-vous.
Il faut regarder le Times.
Donc voilà, donc, c'est un jeu qui est incroyable, qui est complètement différent de tout ce qu'on peut connaître. Même un jeu d'énigmes, c'est vraiment un jeu littéraire parce qu'il y a énormément de sources littéraires, à beaucoup de choses à lire, beaucoup de... Justement, il ne faut pas passer à côté des détails. C'est un jeu qui, de mon point de vue, assez exigeant. C'est-à-dire, c'est pas des énigmes à la petite semaine qu'on va résoudre trop facilement. Enfin, il y a certaines énigmes qui sont moins recherchées que d'autres et c'est un peu plus facile de les traiter. Bon, en général, c'est quand même pas facile. Mais ça en vaut la peine. C'est-à-dire, c'est un jeu exigeant qui va durer quelques heures, mais ça en vaut vraiment la peine. Il n'y a rien de comparable. Quoi.
Non, il est atypique. Et c'est rien pour ça qu'il faut l'avoir.
Donc j'espère vous avoir donné envie. On mettra les règles sur le site. Donc Sherlock Holmes, la première édition est parue en 81, Spiel des Jahres en 85. De 1 à 6 joueurs, ça se joue très bien à nombreux, parce qu'on discute, on échange. Il ne faut pas être trop nombreux, parce qu'il y a quand même, à mon sens, quelqu'un qui doit décider. Et puis si on est trop nombreux, ben on décide moins, donc c'est moins marrant. C'est donné pour une heure, mais à mon avis, c'est plus bien 2 heures, 2 heures.
Au moins 2 heures, ouais.
Et ça peut s'éterniser si vraiment on veut se mettre en compétition avec Sherlock Holmes. C'est à partir de 12 ans. À mon avis, là, ça va être un peu compliqué. C'est plutôt 14. Jouer avec des jeunes adultes et pas avec des enfants, parce que sinon, je pense qu'ils vont s'ennuyer faire, mais que ça ne sera pas sympa. Voilà, Sherlock Holmes, bientôt chez Starry. On passe maintenant aux événements. Alors moi, je voulais vous parler de Valmeniers. Alors Valmeniers, c'est une station de ski qui est dans les Alpes, pas loin de Valoir, si vous connaissez. C'est l'antre du jeu qui organise pour la cinquième année consécutive 2 semaines de ski à Valmeignier. Les dates, c'est du 24 mars au 31 mars 2011. Et la deuxième semaine, c'est du 31 mars au 7 avril 2012. Alors, c'est en fin de saison. Le but, c'est de rassembler un maximum de joueurs dans un cadre de montagne. C'est du jeu, mais aussi du ski, de la raquette, des balades. En général, il y a de la neige. C'est la dernière neige du ski de printemps. Mais l'année dernière, il y en avait beaucoup. Donc, c'est vraiment et jouer et profiter de la montagne. Dans une résidence qui bénéficie d'une piscine, d'un sauna, de hammam, qui est une résidence qui est passée en 4 étoiles, donc un vrai confort, et qui permet pour une semaine hébergement plus forfait de ski 6 jours, plus taxe de séjour, plus caution, pour 13 ans et plus, 180 € par personne. Donc c'est des prix qui défient toute concurrence pour une semaine ou pour 2 semaines. Enfin, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça faisait longtemps. C'est une bonne façon d'allier le jeu et la montagne. Qu'un seul défaut, c'est que c'est hors vacances scolaires. Mais si vous n'avez pas d'enfant ou si vous arrivez à les laisser à la belle-mère ou au beau-père ou à la grand-mère ou je ne sais qui, eh ben, n'hésitez pas, allez-y. Le ski, le jeu de société et tout ça dans une super ambiance. Donc il faut en profiter.
Et puis de mon côté, je vais vous présenter un événement un petit peu différent de ce qu'on vous parle d'habitude. C'est les Rencontres Ludiques 2012. Alors, les Rencontres Ludiques 2012, c'est pas forcément pour vous joueurs, mais on vous en parle quand même parce que l'initiative est intéressante. C'est des rencontres entre, ça s'adresse en fait aux acteurs sociaux, culturels, éducatifs, tous ceux qui gravitent autour du jeu, mais plutôt au niveau ludothèque, etc.
Oui, il y en a peut-être parmi nos auditeurs d'ailleurs. Ça peut intéresser, je pense, certains de nos auditeurs.
Voilà, j'espère. Mais même,
enfin,
même
oui, si... on va éviter de vous parler de choses qui ne nous intéressent pas, en fait.
Ben, ça va, on parle de jeux. Mais... Donc, effectivement, ça intéressera peut-être quelques auditeurs qui sont dans ce milieu-là, et sinon les autres, je pense que ça les intéressera de savoir que ça existe. Donc vraiment, ça s'adresse un petit peu à tous les gens qui côtoient le jeu, au niveau essentiellement professionnel, mais ça peut être aussi au niveau bénévole. Ils attendent entre 120 et 150 participants. C'est fin janvier à 10, du 25 au 28 pour être précis. Et en fait, ça propose tout un programme sur les 4 journées avec des ateliers, des réflexions.
Ouais, c'est un séminaire en fait.
Un séminaire. Là, je ne trouvais plus le mot. C'est un séminaire donc, qui va vraiment proposer plein de thèmes de réflexion différents qui vont être décomposés en ateliers et puis en réunion.
On peut peut-être en citer quelques-uns.
Voilà.
Donc
il y en a quelques-uns autour des jeux d'enfants, interrogation d'adultes, le joueur sur le divan, qu'est-ce qui se passe quand on joue, les animations dans des cadres spécifiques, le jeu vidéo et la diversité des pratiques.
Ouais, c'est quand même assez, je dirais high level, la posture de l'adulte dans le jeu symbolique. Donc c'est c'est la réflexion autour du jeu.
Là,
c'est
assez philosophique.
Et je pense que quand on est dans le monde du jeu et qu'on a notre emploi est très lié au monde du jeu, on a des réflexions comme ça, pédagogiques, et on va plus loin. Et c'est intéressant de pouvoir partager ces expériences de professionnels du jeu, et je pense que c'est une occasion de le faire. Ces rencontres ludiques permettent des ateliers et puis des restitutions de réflexion, donc ça peut être intéressant.
Il y a une c'est pas tous les ans, enfin, un petit moment, je crois que ça n'avait pas eu lieu. Il y a une citation d'ailleurs de quelqu'un sur le site qui dit justement que ces rencontres qu'il a fait en 2004 lui ont énormément apporté dans son travail au quotidien. Justement sur toute la réflexion, sur tout ce qu'ils ont pu mettre en place, etc. Il y a des thèmes un petit peu mieux quand même.
C'est un petit peu mieux.
Enfin, je dirais un peu plus abordable, je dirais pour nous, quand notre façon d'en parler. Par exemple, pourquoi veut-on faire jouer les parents et les adultes accompagnateurs avec les enfants? C'est vraiment une problématique que nous, en tant que joueurs, on ne va pas se poser, et même en tant que parents, nous-mêmes, puisqu'on joue énormément avec les enfants. Mais pour en ludothèque, par exemple, quand les enfants viennent, et effectivement, à mon avis, pour comment intégrer les parents dans le processus du jeu.
Oui, t'as aussi joueur, non joueur, pourquoi certaines personnes jouent et d'autres non. Enfin, ça intéresse tout le monde.
Oui, ça. Pour moi, tout le monde peut jouer, mais il faut juste trouver les bons jeux à proposer aux gens. Mais j'imagine que l'atelier ira beaucoup plus loin que ma conclusion hâtive.
C'est vrai que tu as 30 secondes pour un atelier de 2 heures, c'est un peu short, quoi.
Je suis comme ça, ouais, mais bon, je suis comme ça. Donc, c'est du mercredi 25 janvier 14h, on va dire, au samedi 28, pardon, à 17h. Ça se passe à Die, dans la Drôme.
Le dimanche, faites un petit détour. Allez prendre deux ou trois caisses de clairette.
Prenez un peu de clairette, qui est un pétillant local,
très
doux et très sympa. Mmh.
La tradition.
Oui.
Ah, vas-y.
Prenez une cuvée tradition, c'est meilleur. Bon, on va pas vous décrire tout ce qu'il y a au programme cette année. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le mieux pour vous, c'est éventuellement d'aller voir sur leur site rencontreludique.org, le tout au pluriel. On vous mettra ici, bien évidemment, le lien sur notre site directement.
Ouais, c'est peut-être un petit peu tard pour vous inscrire, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Les écrans.
Bah, je te laisse commencer.
Ah non, moi j'ai pas grand-chose ce soir. On va vous parler de l'île interdite. On vous a dit il y a 15 jours qu'on allait vous en parler, et puis là,
on
parle.
On est frais. Voilà. On rappelle le jeu rapidement ?
Rapidement. Jeu de coopération. L'île s'enfonce dans la mer et il va falloir récupérer 4 trésors à l'aide de 4 cartes identiques que l'on va devoir échanger contre des trésors.
Voilà, un jeu de Matt Leacock chez
Pandémie.
Hotel Games. Ouais, voilà.
Le petit frère de Pandémie.
C'est un Pandémie Light qui permet de faire jouer tout le monde à ce petit jeu coopératif, y compris les enfants à partir de 7-8 ans.
Ça fait moins peur que les maladies.
Ouais, enfin, j'aime pas mourir noyé, moi. Alors.
Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Ebola ou mourir noyé ? Bah, je sais pas. Mourir noyé, ça prend moins de temps. Je sais pas. Excuse-moi.
Je pense que l'Ebola, c'est rapide aussi. Mmh. Alors.
Alors, l'idée, c'est que chaque joueur va incarner un personnage. Chaque personnage a des caractéristiques particulières, a des capacités spéciales.
Un bonus.
Par exemple, le pilote va pouvoir se déplacer ou déplacer les autres personnages. L'ingénieur va pouvoir assécher deux tuiles au lieu d'une, etc., etc.
Là où ça s'enfonce dans l'eau, ouais.
L'idée, c'est qu'à son tour, on va faire trois actions. Une action peut être se déplacer, peut être assécher un territoire adjacent, peut être donner une carte que l'on a en main à un coéquipier qui est sur la même case. En sachant qu'on ne peut pas avoir plus, à aucun moment, on ne peut avoir plus de 5 cartes en main. C'est une contrainte forte qui fait que quand on va réussir, si on veut réussir la suite de 4 cartes identiques, il va falloir qu'on file des cartes et puis qu'on gère cette contrainte. Quand on a fini ces trois actions, ben on va d'abord piocher des cartes et après on va faire le mal, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fonction de l'avancée dans le temps et puis de la difficulté du jeu, parce qu'il y a diverses difficultés qui vont en fait nous faire piocher plus ou moins de cartes à la phase d'élévation de la mer. On va noyer en fait des terrains. C'est qu'on va passer son temps à sécher des terrains pour ne pas se couper et des lieux où on va pouvoir échanger des cartes contre les trésors et où on va essayer de ne pas se couper non plus de l'héliport, qui est le seul moyen de partir de l'île. C'est une chose importante, c'est qu'on a des cartes spéciales qui sont des sacs de sable qui vont permettre d'assécher des tuiles. Et puis on a aussi des cartes hélicoptères qui nous permettent de fuir. Et il faudra à la fin de la partie avoir en main une carte hélicoptère pour pouvoir quitter l'île.
Et la montée des eaux, enfin, elle est provoquée par des cartes, dans les cartes qu'on pioche, les cartes qui s'appellent montée des eaux, qui font qu'on va piocher plus de cartes, mais surtout, l'effet, c'est que les cartes qui étaient défaussées jusqu'ici, qui indiquaient les tuiles qui étaient inondées, sont mélangées et reviennent sur le dessus de la pile. C'est-à-dire que des tuiles qui étaient déjà retournées une première fois, qui commençaient déjà à être inondées, vont maintenant disparaître sous les eaux, donc il va falloir se dépêcher à les assécher.
Une tuile qui est inondée peut s'assécher, une tuile qui a disparu, bah, elle a disparu et on ne peut plus rien en faire.
Dommage.
Voilà, donc c'est le jeu de société assez court, une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. C'est assez dynamique. C'est un jeu de coopération où faut prendre des initiatives, c'est cool. C'est pas trop, il y a pas trop de pression, même si ça existe bel et bien. Et puis c'est accessible, c'est très accessible en fait à toute la famille. Tu veux nous parler du portage ?
Alors on va prendre la version iPad.
Comme d'habitude, un petit peu de son.
Musique.
L'aventure.
Donc bienvenue au cinéma, on est à Hollywood.
On n'entend pas très bien. Ah, très bien. C'est les aventuriers de l'Arche perdue, ça.
Je sais rien. Enfin bon, c'est une musique, moi, je trouve carrément pompeuse, mais ça, c'est pas grave. Elle est que pendant le menu, heureusement, après, pendant le jeu, elle s'arrête. Je la coupe, d'ailleurs, tout de suite.
Ouais, mais c'est toujours un petit peu le point faible de toutes ces applications. C'est,
bah,
c'est
difficile. Finalement, ouais, mais ils en mettraient pas, ce serait aussi bien. Enfin, je sais pas. Après, les gens critiqueraient peut-être qu'il n'y a pas son.
Ouais, j'ai bien aimé Elder Sign, la partie sonore. C'était sympa.
Dans Elder Sign, ça crée un peu plus l'ambiance. Mais c'est plus subtil, on va dire, que là. Mais après, bon, dans le jeu, il n'y a pas de problème. Il y a juste les bruitages des cartes qu'on retourne, des choses comme ça. Et là, là par contre, là, ça reste tout à fait agréable. Le jeu, il permet de jouer sur l'iPad de 2 à 4 joueurs. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de limitation à 2 joueurs nécessairement. On peut le jouer dans 2 modes en plus, assez intelligent. On peut considérer qu'on se passe l'iPad à tour de rôle. Dans ces cas-là, tout est toujours orienté dans le même sens de lecture. Ouais. Ou bien on considère qu'on le pose au milieu de la table et que tous les joueurs sont répartis autour. Et dans ces cas-là, les cartes sont tournées en fonction du sens des joueurs. Mm-hmm. Donc ça, c'est une, ça commence déjà à être bien. C'est une bonne idée.
C'est pensé, tu veux dire ?
C'est bien pensé, ouais. Voilà, la prise en main ensuite. Le jeu, déjà, esthétiquement, il est beau quand on lance le menu de base et quand on lance la partie aussi. Ce que je trouve de bien, c'est qu'on retrouve la même disposition du matériel, plateau, etc., que quand on fait le jeu tel qu'il est décrit d'ailleurs dans la règle et quand on y joue sur le plateau.
Le jeu est beau de toute façon.
C'est
le jeu,
ça.
Le jeu a une esthétique qui est particulière, mais qui est super belle.
Et sur l'iPad, ça s'y prête bien parce que le plateau, même avec toutes les tuiles, n'est pas finalement si grand que ça. Et ça reste donc très bien présente. Au niveau de la prise en main, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu ou qui voudraient voir comment on se prend en main la version iPad, il y a un tutoriel qui est très très bien fait, qui explique rapidement comment les différentes actions que l'on peut faire dans le jeu, qui explique comment on les réalise sur l'iPad. Et en plus, il y a des mises en situation, c'est-à-dire qu'on commence un petit peu au début, il nous montre comment on fait. Et ensuite, ils avancent un petit peu dans le jeu pour nous mettre à un autre moment où ils veulent nous montrer d'autres aspects du jeu. Donc évidemment, c'est assez simple le tutoriel pour le réussir. Au niveau de la prise en main, Olivier nous fait des merveilleux bruitages. Je trouve que c'est très intuitif. Que le joueur dont c'est le tour, il est bien marqué en bleu pour bien voir qui doit jouer. On peut toujours d'un clic se rappeler son pouvoir. On voit les cartes que tous les joueurs ont en main. Enfin, en main en fait, dans le jeu normalement, les joueurs ont leurs cartes devant eux sur la table. Donc là,
oui, tout est découvert.
C'est bien fait, oui, ça aide à la réflexion. Rappelons que c'est un jeu grand public. Pour faire les actions, c'est facile. Bon, il y a son pion qui est mis en surveillance et les tuiles sur lesquelles on peut aller sont marquées en vert, sont entourées de vert pour bien indiquer là où on peut aller. Les tuiles que l'on peut assécher également ont un petit symbole pour permettre de mieux assécher.
Avec un sac de sable. C'est étrange.
Oui, c'est étonnant, avec un sac de sable pour construire les digues. Et ensuite, quand on a fait ces trois actions et qu'il va falloir aller piocher, la pioche des cartes en rouge, en fait, va être légèrement en surveillance. Une petite animation en surveillance pour rappeler qu'il faut aller cliquer à cet endroit-là pour piocher les cartes.
Oui, de la même façon, quand il faut faire le, entre guillemets, inonder l'île.
Voilà, et après c'est pareil, ouais, quand on va piocher du coup, les cartes, on voit exactement ce qu'il faut faire.
Je peux dire que moi, je n'ai pas été super emballé par la prise en main. J'étais un petit peu perdu en fait.
Mais tu n'as pas fait le tutoriel?
Non, mais je connaissais déjà le jeu, c'est pour ça.
Ah ouais, mais moi je fais toujours un tutoriel, déjà parce que j'ai des auditeurs à qui il faut dire si c'était bien ou pas le tutoriel. Et effectivement, pour la prise en main.
J'ai été un peu perdu et alors effectivement, sur les petits meeples, enfin c'est des petits pions, on a un liseré bleu pour le meeple
actif.
Bon, ça passe vite, c'est-à-dire qu'on rentre dedans facilement, mais c'était moins facile pour moi que certains autres jeux.
Alors par contre, j'ai montré le jeu à mon fils, 7 ans. Je lui ai rapidement expliqué, voilà, le
c'est
joueur.
Son prénom, c'est 7 ans
est... Ouais, il s'appelle 7 ans.
D'accord.
C'est pas mal comme nom.
Ouais, ouais.
Je voulais l'appeler Satan, mais on m'a dit non. Enfin, je dis 7 ans.
Pardon.
Bref, à 7 ans, donc, je lui ai montré rapidement comment on prenait en main le jeu. Alors évidemment, il connaissait déjà la version plateau. Il s'est débrouillé tout seul.
Lui.
Évidemment, il n'a pas déroulé le tutoriel. Parce qu'en fait, le jeu est en anglais. Donc le tutoriel pour un enfant en anglais, à moins que vous soyez... américain, anglais ou j'en sais rien, ça va pas beaucoup lui parler. Mais il n'empêche que du coup, il a pris le jeu en main tout seul. Il faut juste lui rappeler les pouvoirs des quatre joueurs. Et ensuite, il est parti et il a gagné la partie.
C'était pas il a joué tout seul ?
Ouais, en jouant tout seul.
D'accord. Sur les cartes de trésor, il y a uniquement des illustrations. Et sur les cartes, sur les tuiles, en fait, il y a le nom de la tuile. Enfin, c'est un des endroits de l'île. Il y a la porte des murmures, l'observatoire, des choses comme ça, on s'en fiche en fait. C'est pas très très grave que ce soit pas en français.
Oui, tout à fait. C'est juste au début pour le tutoriel, etc. Un autre aspect justement du fait que c'est pas très gênant, qui est le nom des cartes en anglais, c'est que quand on pioche les cartes des tuiles qui doivent être inondées, eh ben, c'est bien sûr le jeu qui le fait à notre place et qui le fait très bien. Moi, j'aime beaucoup, ça fait des manips en moins par rapport au jeu plateau. Bon, elles sont pas énormes, les manips. Mais n'empêche, elles sont bien faites et en plus, elles sont animées de manière intelligente. On a largement le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Alors, Olivier, c'est fini, on l'a perdu, il est en train de jouer. Mais son île est franchement coulée.
Oui, oui, j'attends de voir comment c'est que, quand on perd.
T'as jamais vu quand tu perds ?
Bah, je perds rarement à l'île interdite, en fait.
T'as joué en mode...
Je joue pas en mode le plus difficile, mais celui juste en dessous, en fait.
Ah, parce que voilà, dans le mode le plus difficile, par contre, faut bien gérer ça.
Enfin, c'est quand même un niveau assez simple par rapport à certains autres jeux coopération.
Tu veux dire par rapport aux tuiles que tu peux laisser couler ou pas ?
Alors d'abord, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de l'île qu'on peut voir abandonné parce que ça ne nous sert pas et que ça ne bloque pas le passage à l'héliport et que de toute façon, quand on a récupéré le trésor, bah, on n'a plus rien à faire d'avoir cette tuile-là. Et ni les tuiles qui sont en bordure de l'île, on peut les laisser couler sans problème.
J'ai un bémol là-dessus, mais en mode difficile.
Et puis après, enfin, quand tu n'as plus cette pression-là, c'est en fait la façon dont arrivent les tuiles, les
monter
tuiles
des
ouais, de monter des eaux. En fait, si t'as pas de chance, elles vont arriver très vite, et puis t'auras perdu.
Il y en a 4 parmi la trentaine de cartes du deck.
Ouais. Oui, mais tu fais tourner ton deck deux fois, en fait, dans le niveau le plus ardu. Donc, en fin de compte, c'est plus une question de chance que vraiment une question de talent ou de jouer bien ou pas. Quoi.
Disons qu'il ne faut pas défausser les cartes qui permettent de récupérer les trésors, il faut bien les gérer.
Ouais, mais des fois...
Non, mais je sais bien.
Mais en fait, t'as 4 niveaux de difficulté. T'as novice, normal... Élite et légendaire. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Bon, novice, c'est très facile. Normal, c'est facile. Élite, pour vous, joueurs et joueuses qui nous écoutez, qui normalement avaient un certain niveau en jeu de société, pas en dessous d'élite, quoi.
Le jeu, contrairement à pas mal de jeux coopératifs, dont Elder Sign, dont on vous avait parlé, ne propose pas malheureusement de score. Il n'y a pas de notion de scoring dans ce jeu-là. Forcément, c'est un jeu plus grand public, donc on n'a pas de manière de
garder trace de ce qu'on a fait.
D'évaluer ouais, la qualité de la victoire.
Ouais, c'est pas le but.
C'est pas très gênant. Non, mais bon. Par contre, il y a des achievements. Les fameux achievements.
Ouhou.
Qui sont pas super inspirés, qui sont genre j'ai gagné tant de parties, un tel niveau, etc. Il y a par contre une fois, Olivier, je t'invite à le faire, il faudra que tu perdes en noyant tes bonhommes, puisque dans ces cas-là, tu gagnes un achievement.
Bah, c'est je suis en train là.
Voilà, et bah, tu vas l'avoir celui-là. Évidemment, tout ça va sur le Game Center directement. Bon, c'est pas l'attrait principal du jeu. Par contre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur le jeu, c'est qu'il est possible de reprendre évidemment une partie. Alors ça, c'est facile de le tester, parce que malheureusement, le jeu, chez moi, il a planté plusieurs fois. Il plante un petit peu méchamment.
Oui, alors ça vient peut-être du fait que tu as un iPad 1, parce que moi, j'ai eu aucun problème.
Et j'ai pas eu de mise à jour depuis, donc peut-être effectivement que c'est sur les iPad 1 et pas sur les deux. Quand il y a eu des plantages, bah, du coup, j'ai pu voir qu'on pouvait reprendre sa partie, mais même mieux, on peut reprendre parmi plusieurs parties. Le jeu permet, en fait, mémorise plusieurs parties en cours de route.
Pas mal.
Donc ça, c'est pas mal du tout, c'est une première. En tout cas, moi, je l'avais pas vu avant. Et ça, j'ai apprécié. Voilà, après, bah, l'autre point positif, comme je disais, c'est le fait qu'il y a toutes les animations, etc., toutes les manipulations qui sont faites par le jeu directement. Une partie, du coup, ça va vite, hein, en solo. On joue les 4 bonhommes et ça se fait en quoi ? En même pas 10 minutes ?
Ouais, un quart d'heure.
Ouais, ça va vite. Et c'est toujours très agréable à jouer. Et en plus, comme on l'a dit, l'interface est... tellement intuitif que même les enfants peuvent s'y mettre pour peu qu'ils connaissent déjà les règles du jeu et qu'on leur explique un petit peu la prise en main de l'application. Donc Forbidden Island, c'est un jeu uniquement sur iPad à 3,99€, un petit peu en anglais malheureusement, à partir d'iOS 4.3.
Bon bah voilà, Jérémy, encore un de passé.
Encore un excellent épisode, Olivier.
C'est fini. Juste the end.
Oh là là. C'est triste. Heureusement, on revient encore dans 2 semaines.
On revient dans 2 semaines.
Il y a encore au moins un numéro en fin 2011.
Voilà. Et on revient dans 2 semaines.
Tirage au sort.
Jusque-là, allez nous rendre visite sur podcast.proxy-jeu.fr. Allez mettre un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de la longueur de nos podcasts.
Notez-nous sur iTunes.
Voilà, une note, un commentaire. Surtout un commentaire, parce que la note, c'est quelque chose, mais...
Ouais, un commentaire sympa, en plus.
C'est bien.
Et ce podcast est chapitré. Si vous nous écoutez sur un iPhone ou un iPad, vous pouvez tout à fait accéder directement à une rubrique si vous trouvez qu'on est trop long, que ça ne vous intéresse pas, etc. N'hésitez pas, coupez-nous.
Je mets aussi quelques illustrations, ce qui vous permet, quand vous êtes dans le métro, vous ne savez pas de quoi nous parlons. Vous tapez un peu sur votre écran et vous voyez un petit peu le jeu. Donc c'est encore plus sympa. Donc rendez-vous dans 15 jours. Pensez au concours Steam Torpedo. Et d'ici là...
Jouez bien. J'en sais rien.
C'est de l'auto-moubourrage en fait. On est en train de parler d'un truc et là Jérémy dit mais alors, 35 euros, les frais de port. Ouais, d'accord, ok. Je vais vous parler de Détective Conseil, le jeu des cartes qui date de 1995. 5. Dans ce classeur, qu'est-ce qu'on a ? On a le New York Times.
Et de mon côté, une initiative un petit peu hors norme, enfin je veux dire...
Différente.
Différente, voilà, c'est ça. De ce dont on parle d'habitude, hein, ça va changer des salons, des soirées jeux...
Ou des semaines à la campagne. Hein.
Ce qui jeu, pardon. Qu'est-ce que tu disais ?
Des conneries, je disais des conneries.
Je voulais dire un autre truc, je sais plus.
T'as perduche ?
J'ai perduche. J'ai perduche. J'ai perduche, qu'il voulait dire. J'ai perduche.